La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Étienne.
Alors Jacob, en rentrant dans sa patrie, avait opté pour le Dieu unique qui s'était révélé à son grand-père Abraham et qu'il avait gratifié lui-même de ses révélations. Face à son beau-père Laban, qu'il avait publiquement accusé de vol des idoles domestiques sans en avoir administré la preuve, Jacob s'est laissé aller à ce qu'il croyait être une juste colère contre son beau-père. Ne l'avait-il pas servi avec intégrité 14 années pour ses deux filles et 6 de plus pour son troupeau, sans qu'on n'ait jamais rien à lui reprocher?
Et Étienne, en dépit de sa loyauté, Laban ne l'aurait-il pas renvoyé les mains vides s'il avait lui-même, la nuit précédente, n'était intervenu par un songe, rendant son jugement en sa faveur? Laban, bien qu'acculé, d'accord, ne convainc de rien. Ses filles, leurs enfants, ses troupeaux, tout était à lui. C'est ce que nous dit le chapitre 31 de la Genèse. Toutefois, bon prince, il concéda qu'il voulait bien signer un pacte de non-agression, instaurant dorénavant une frontière inviolable entre Aram et Israël.
Alors, craignant qu'il ne se dédise, Jacob s'empressa de dresser une stèle. Il va faire ramasser des pierres pour en former un monceau, et une sorte de caïrne, témoignant de la parole donnée et de leur engagement réciproque de non-belligérance, valable d'ores et déjà et pour les générations futures, sous peine de s'attirer la malédiction divine. Il lui donne à cet endroit les noms de Galeed ou de Mitzpah. En hébreu, mitzpah, c'est sur un mot sur la racine de guetter,
pour veiller,
que, veiller,
oui,
pour que Dieu demeure le guetteur vigilant, arbitre entre les deux parties. Au matin, Laban embrasse ses petits-enfants, ses filles. Il va les bénir avant de s'en retourner chez lui sans ses idoles domestiques, sans les téraphimes.
Eh oui. Jacob, quant à lui, se remet en route tout de suite avec le dessein de rejoindre Hébron, donc au sud d'Israël, et la grotte de Macpéla, où pour y invoquer la bénédiction d'Abraham et Sarah qui y reposent, ses aïeux, ainsi que ses parents Isaac et Rebecca, qu'il n'avait pas revus avant qu'il ne meure. Mais pour ce faire, il lui fallait traverser la montagne de Séir, fief d'Ésaü, son frère ennemi. Alors, averti de son arrivée en Canaan, Édom, c'est aussi l'autre nom, le rouge qu'on donne à Ésaü, venait en personne à sa rencontre avec, tiens-toi bien, 400 hommes, armés jusqu'aux dents. Vraiment de quoi être terrifié. À cette nouvelle, Jacob prit peur, submergé par les terreurs du passé, quand il fuyait la vindicte de son aîné.
Oui, on doit quand même rappeler qu'il lui a volé le droit d'aînesse.
C'est ça.
Donc, évidemment qu'il est très, très motivé pour une vengeance.
Et qu'il a eu à jurer de le tuer dès qu'il en aura l'occasion.
Donc, pour tenter de l'amadouer, il décide de lui envoyer des messagers accompagnés de riches présents. On va tenter de l'acheter. C'est une manœuvre inutile parce que Ésaü poursuit sa route avec ses gens. Donc, désespéré, Jacob va résoudre de tenter de se soustraire à la razzia sanglante qui se profile et il divise son camp en deux. Si son frère attaque une partie du clan, eh bien l'autre aura la vie sauve. Donc, dans le premier convoi, il met Léa, ses fils et les servantes. Et dans l'autre convoi, à l'arrière-garde, il place Rachel, son épouse préférée, avec leur fils Joseph. Ce qui en dit long, Jocelyne, sur la force du lien qu'il attache à elle.
C'est sûr, il préfère sacrifier Léa.
J'imagine qu'il se dit que l'arrière-garde sera plutôt protégée et que c'est plutôt la première partie avec Léa qui souffrira de la vindicte d'Édom. Alors, arrivé en un lieu qui s'appelle le gué du Yabok et qui forme une frontière, il va faire passer tout son clan et ses troupeaux en bon ordre, se séparant en dernier lieu de son grand amour et de son fils préféré, Joseph, en espérant de toutes ses forces pouvoir les revoir.
Et à la nuit tombée, l'échine parcourue de longs frissons d'effroi, Jacob resta seul, nous dit le chapitre 32 de la Genèse, incapable de franchir les eaux noires du torrent qui brillent sous l'œil rond de la lune pleine. Tout ce que l'homme possède, il l'abandonne pour sauver sa vie, avait déclaré Satan à Dieu, qui lui vantait la fidélité indéfectible de son serviteur Job. Jacob, en faisant à ce moment-là l'amère expérience, donnait raison à la prophétie de Satan. Tétanisé par la peur de mourir, moins physiquement d'ailleurs qu'au plan de son être, de la mission qu'il avait, il éprouvait jusqu'à la moelle des os la terreur héritée du péché d'Adam, du fait d'avoir rompu avec Dieu, celle qui arracha à l'humanité du Christ Jésus à Gethsémani des cris et qui fit couler à terre une sueur de sang.
Oui, et comme à Gethsémani, au jardin des Oliviers, Dieu envoie un ange, d'ailleurs plus précisément Ish dans le texte, c'est-à-dire plutôt un homme en hébreu, oui, traduit ange, afin qu'en luttant contre lui, contre Jacob, Jacob puisse remporter ce qu'on pourrait appeler le bon combat de la foi, eu égard aux épreuves qui l'attendaient, tant sur la terre de Canaan qu'en Égypte. Arc-bouté, Jacob lutte contre cet ange jusqu'à l'aube, nous raconte le chapitre 32 du livre de la Genèse. Pour se dégager, l'ange le frappe à l'emboîture de la hanche, c'est-à-dire au nerf sciatique, le laissant à jamais avec une souffrance innocente, il sera boiteux. « Je ne te lâcherai pas, dit Jacob, que tu ne m'aies béni. » Alors l'ange lui répond « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as été fort contre Dieu et contre les hommes, et tu l'as emporté. »
Oui, voilà ce que signifie Israël. Et la valeur de ce nom n'a pas changé et ne changera jamais. Ça signifie « Dieu combattra », sous-entendu en faveur de Jacob et de ses descendants, comme promis à Abraham. Parce que la promesse de l'alliance avec Abraham, c'est « Par toi se béniront tous les clans de la terre ». C'est-à-dire, la bénédiction de Jacob, c'est une bénédiction pour l'univers entier. Ce lieu, Jacob Israël, va le nommer Penuel, qui signifie « fait », c'est la face à Dieu. Car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve ». Au lever du jour, il va franchir le Yabok, mais en claudiquant. Il boite notre Jacob. Désormais, ce boiteux, sa force ne pourra résider qu'en Dieu, parce que lui, il ne peut plus compter sur lui. Amoindri et humilié, il est prêt à rencontrer Ésaü, lequel, à son grand ébahissement, dès qu'il le voit, au lieu de foncer sur lui et de ne pas faire de quartier, se précipite à sa rencontre et le prend dans ses bras, se jette à son cou et l'embrasse en pleurant.
Médusé, Jacob confesse, j'ai affronté ta présence comme on affronte celle de Dieu et tu m'as bien reçu. Moyennant quoi, il veut forcer son frère à accepter des largesses, gages de paix entre eux, mais celui-ci refuse, étant lui-même très riche. En revanche, Ésaü insiste pour l'inviter à le suivre dans un lieu en séhir.
Là où il habite.
Et prudent, Jacob prétexte la fragilité des enfants et du bétail pour le laisser partir en avant, promettant de l'y rejoindre. Mais dès que Ésaü fut hors de vue, il oblique vers Soukhot, au bord du Jourdain, avant de le traverser, ce Jourdain, pour camper face à Sichem, où il va se hâter d'acheter la parcelle de terre où il avait planté sa tente, afin d'y ériger un autel pour rendre grâce à Dieu. Cet endroit, il va l'appeler El, E-L, Dieu d'Israël.
Eh oui, enfin chez lui, sur ce lopin de terre promise, il va s'empresser d'y creuser un puits devenu célèbre. Et tu sais qui l'a rendu célèbre particulièrement ?
La Samaritaine.
Et oui, où Jésus va rencontrer cette femme de Samarie qui vient de Sichem, Sichar, voilà, et qui lui parle de ce puits creusé par leur père Jacob. Elle aussi se croyait chez elle face à cet étranger. Or, il se savait chez lui, le Messie Jésus. Messie promis à Israël comme Jacob, attendant Rachel, au bord du puits de la rencontre.
À l'heure méridienne, moi la Samaritaine, ma cruche sur l'épaule, je viens chercher de l'eau. Que fait cet homme assis tout seul sur la margelle? C'est un juif, et pour eux suis une païenne entre nos peuples. C'est la haine, c'est la haine. Tu me demandes à boire, à moi samaritaine. Mais je viens de Sichem, toi de Jérusalem. C'est notre père Jacob qui pour nous a creusé ce puits profond où tu veux te désaltérer. Entre nos peuples, c'est la haine, c'est la haine. Femme, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande à voir. Toi qui l'en aurais prié, il t'aurait donné l'eau vive de l'esprit qui jaillit pour la vie éternelle. Puisque tu es prophète, où faut-il donc prier? Sur le mont Garizim ou à Jérusalem? Sur cette montagne, ni à Jérusalem. Dieu est esprit, c'est ton esprit et vérité qu'il nous faut adorer. Le Père, femme, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à avoir. C'est toi qui l'en aurais prié, et il t'aurait donné l'eau vive de l'esprit qui jaillit pour la vie éternelle. Chez ton mari, Seigneur, je n'en ai pas. C'est vrai, ils étaient cinq, mais personne avec toi. Si c'est toi le Messie, arrête ma dérive. Je laisse là ma cruche, car en toi, j'ai l'eau vive. Femme, si tu savais.
Les mois passants s'arrondissaient le ventre de Rachel. Jacob se prend à croire au bonheur, un bonheur simple au milieu des siens. Mais il n'est pire danger que l'eau qui dort, Jocelyne.
Oui.
Un jour que sa fille Dina, son unique fille, est sortie pour aller voir les filles du pays, Sichem.
Il n'y a que des garçons dans la famille.
Oui, donc à un moment, elle se dit, bon, quand est-ce que je vais me faire des copines?
Oui, c'est ça.
Donc, elle va donc à Sichem. Et dans cet endroit-là, il y a un homme qui s'appelle Sichem. Il est fils de Hamor et il est le prince de la ville éponyme. Et quand il voit Dina, il est subjugué par sa grâce. Et le texte nous dit qu'il enlève cette jeune fille et il la viole. Au chapitre 34 de la Genèse.
Oui, c'est les mœurs locales.
Pris de remords, il va quand même parler à son cœur, nous dit le texte de la Genèse, afin qu'elle lui pardonne, et puis il veut l'épouser. Alors son père va demander sa main à Jacob, mais les frères de Dina, ayant appris le rapt et la violence subie par leur sœur, vont exiger qu'il se fasse d'abord circoncire en réparation de ce dommage, lui, et non pas seulement lui, tout le peuple de Sichem avec lui.
Parce qu'elle ne saurait épouser un incirconcis. Alors le troisième jour, après la circoncision, alors que tous les mâles de la ville étaient encore souffrants, hein, il faut le dire, eh bien Siméon et Lévi en profitent pour laver l'honneur de leur sœur, et ils vont faire son malheur en réalité en passant tous les hommes de Sichem au fil de l'épée. Épouvanté en apprenant la nouvelle, Jacob plie bagage en pleine nuit et prend la direction de Bethel au sud pour échapper à ses poursuivants. Dieu va protéger sa fuite, parce que sinon il serait resté personne, en faisant tomber sur la ville une terreur divine. Et la Genèse au chapitre 35 écrit « On ne les poursuivit pas », ce qui est tout à fait étonnant. Jacob était dévasté par ce qui venait d'arriver, et pour comble de malheur, alors qu'on approchait de Bethléem et qu'on marchait à marche forcée, évidemment c'était fatigant, Bethléem Ephrata, Rachel est prise de douleur, elle est sur le point d'accoucher. Le travail s'éternise, Rachel souffre beaucoup, ça se présente très mal, mais la sage-femme lui dit « Rassure-toi, c'est encore un fils que tu as ». Mais Rachel comprend qu'elle ne va pas survivre. Et au moment où elle expulse l'enfant, elle lui donne un nom, elle l'appelle Ben-Roni, c'est-à-dire « fils de ma douleur ». Nom que Jacob ne veut pas donner à cet enfant, parce qu'il ne veut pas qu'il porte un nom qui est tellement lourd à porter, hein, fils de ma douleur. Franchement, s'appeler comme ça, hein, c'est un peu dur, quoi. Et alors, il va le changer en Ben-Yamin, ce qui signifie fils de ma droite ou fils du midi, du soleil, puisqu'il est le seul de ses enfants à voir le jour dans ses contrées méridionales par rapport à Haran. Rachel va rendre l'âme entre ses bras, et de même qu'il avait cueilli sur ses lèvres son tout premier baiser au puits de la rencontre, de même il va recevoir le dernier, là, dans son dernier souffle.
Au soir de sa vie, sentant sa fin prochaine, après tant et tant d'épreuves traversées, parmi lesquelles la disparition de son fils Joseph, retrouvé 17 ans plus tard en Égypte, devenu le grand vizir de Pharaon, Jacob va faire une confidence à ses fils réunis autour de son lit. « Pour moi, quand je revins d'Aram, Rachel mourut dans mes bras au pays de Canaan pendant le voyage. C'est un aveu pudique et déchirant d'un amour qui n'avait jamais cessé de brûler en lui. Et à regret, il l'avait enterré à Bethléem, où il avait dressé une pierre sur son tombeau. Et Jocelyne, cette stèle y demeure encore aujourd'hui. »
Ah oui. Certes, il va dormir aux côtés de Léa dans la grotte de Macpéla. Hein. Pour elle, elle s'est rattrapée dans l'éternité, je dirais, mais son cœur est à jamais resté auprès de Rachel, veillant sur elle. Et on peut dire que de cet amour que, en fait, leurs âmes étaient enlacées à Bethléem dans l'attente du Messie qui allait y naître, leur espérance comblée le jour où Marie allait enfanter Jésus.
Ainsi s'achève notre émission sur le retour de Jacob en Canaan. Vous pouvez donc retrouver cette émission dans le livre de Jocelyne Tarnot, intitulé « Les couples phares de la Bible », paru aux éditions Salvator. Les deux chansons qui ont été diffusées, donc la première, c'était la Samaritaine, au cours de cette émission, et en fin d'émission, il y aura aussi la chanson « Rachel », tirée de notre comédie musicale « Joseph et ses frères ». Ces deux chansons, vous pouvez les écouter, les retrouver sur ma chaîne YouTube, Étienne Tarnot, et puis sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Par ailleurs, nous animons avec Jocelyne des contes, des concerts bibliques, des conférences aussi en solo de la part de Jocelyne dans toute la francophonie. Si vous souhaitez nous faire venir dans votre école, collège, lycée, paroisse, groupe biblique, vous pouvez nous écrire au mail de l'émission biblepasapas@gmail.com. Très bonne semaine à toi, Jocelyne.
Très bonne semaine, Étienne. Et surtout, très bonne semaine à tous.
Fuyons.
criant devant mon frère qui voulait me tuer pour lui avoir volé contre un plat de lentilles son précieux droit d'aînesse. Je la vis s'avancer auprès du puits où je m'étais assis. Merveilleuse bergère, mon cœur s'est embrasé. J'ai pleuré de tendresse et je l'ai embrassée. Vous êtes tous les deux ce qui me reste d'elle. Et toi, Joseph, son portrait tout craché. Elle fut ma préférée, la gracieuse Rachel. Jamais je n'oublierai l'amour que j'eus pour elle, pour elle. Pour obtenir sa main, j'ai travaillé 7 ans qui m'ont paru un jour, tant je sentais d'amour pour la belle Rachel. Profitant de la nuit, mon beau-père m'a trompé, et c'est son autre fille qu'il m'a fait épouser. Mon cœur désespéré, de tristesse à pleurer. Vous êtes tous les deux ce qui me reste d'elle. Et toi, Joseph, son portrait tout craché. Elle fut ma préférée, la gracieuse Rachel. Jamais je n'oublierai l'amour que j'eus pour elle.
Nous sommes tous les deux ce qui te reste d'elle.
Et toi, Joseph, son portrait tout craché.
Elle fut ta préférée, la gracieuse Rachel.
Jamais je n'oublierai l'amour que j'eus.
Tous les deux, ce qui te reste d'elle.
Et toi, Joseph, son portrait tout craché.
Elle fut ta préférée, la gracieuse Rachel. Jamais nous n'oublierons l'amour que j'eus pour elle. Pour elle.